Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire La vie divine de Sri Aurobindo, le chapitre 25, La triple transformation. Un être conscient est le centre du moi qui gouverne le passé et l'avenir. Il est comme un feu sans fumée. Cela, il faut le dégager de son propre corps avec patience. Kanta Upanishad. Une intuition dans le cœur voit cette vérité. Rig Veda. Je demeure dans l'être spirituel et de là je détruis l'obscurité née de l'ignorance avec la lampe illuminatrice de la connaissance, la Gita 10.11. Ces rayons sont dirigés vers le bas. Leurs fondations sont en haut. Puissent-ils s'enfoncer profondément en nous, ô Varuna ? Éveille-toi ici-bas, étends largement ton empire. Puissions-nous demeurer dans la loi de tes œuvres et rester irréprochables devant la mer infinie, Rig Veda. Le signe qui demeure dans la pureté, le signe c'est l'oiseau blanc, né de la vérité lui-même, le vaste, Kanta Upanishad. Si la seule intention de la nature dans l'évolution de l'homme spirituel est de s'éveiller à la suprême réalité et de le délivrer de d'elle-même ou de l'ignorance derrière laquelle elle s'est masquée en tant que pouvoir de l'éternel, en l'incitant à se tourner ailleurs, vers un plus haut état d'être, et si ce stade de l'évolution s'avère être une fin et une issue, alors l'essentiel de son travail est déjà accompli et il ne reste plus rien à faire. Les voies ont été tracées, les capacités nécessaires pour les suivre ont été développées, et le but, l'ultime sommet de la création a été révélée. Tout ce qui reste à accomplir, c'est pour chaque âme d'atteindre individuellement la vraie étape et le vrai tournant de son développement. De s'engager sur les voies spirituelles et de sortir de cette existence inférieure par les chemins de son choix. Mais nous avons supposé que la nature avait un plus vaste dessein, non seulement une révélation de l'esprit, mais une transformation radicale et intégrale de la nature. Alors je répète parce que c'est important, mais une transformation radicale et intégrale de la nature. Il y a en elle la volonté d'effectuer une vraie manifestation de la vie de l'esprit dans un corps, d'achever ce qu'elle a commencé en opérant un passage de l'ignorance à la connaissance, de rejeter son masque et de se révéler comme la conscience-force lumineuse qui porte en soi l'existence éternelle et sa joie d'être universelle. Il devient alors évident que quelque chose n'a pas encore été accompli. Tout ce qui reste à faire apparaît clairement. Bori Aspashta Karvatfam. Un sommet reste à atteindre, une étendue que doit encore embrasser l'œil de la vision, l'aile de la volonté. L'esprit doit maintenant s'affirmer dans l'univers matériel. Alors je répète, parce que c'est très important, un sommet reste à atteindre, une étendue que doit encore embrasser l'œil de la vision, l'aile de la volonté. L'esprit doit maintenant s'affirmer dans l'univers matériel. Ce qu'a fait le pouvoir évolutif jusqu'à présent, c'est de rendre quelques individus conscients de leur âme, de leur moi, de l'être éternel qu'ils sont, de les mettre en communion avec la divinité ou la réalité dissimulée derrière ces apparences. Un certain changement de la nature prépare, accompagne ou suit cette illumination. Mais ce n'est pas le changement complet et radical qui établit un nouveau principe sûr et invariable. Une nouvelle création, un nouvel ordre d'existence permanent dans le domaine de la nature terrestre. L'homme spirituel est apparu dans l'évolution, mais non l'être supramental qui sera désormais le maître de cette nature. L'homme spirituel est apparu dans l'évolution, mais non l'être supramental qui sera désormais le maître de cette nature. Il en est ainsi. Parce que le principe spirituel ne s'est pas encore affirmé de façon tout à fait indépendante et souveraine. Jusqu'à présent, il a donné à l'être mental le pouvoir de s'évader de lui-même, de s'affirmer et de s'élever jusqu'à un équilibre spirituel. Il a aidé l'esprit à se libérer du mental et l'être à s'élargir dans un mental et un cœur spiritualisés. Mais il ne lui a pas permis, ou du moins pas encore suffisamment, d'affirmer sa propre maîtrise dynamique et souveraine, et ne l'a pas libéré des limitations du mental et des instruments mentaux. D'autres instruments ont commencé à se développer, mais il faut encore que ce développement devienne total et effectif, qu'il cesse en outre d'être une création purement individuelle au sein d'une ignorance originelle, quelque chose de supranormal pour la vie terrestre. Voué à jamais à demeurer un accomplissement individuel, le fruit d'un dur labeur. L'emploi de ces instruments doit devenir normal dans la nature d'un type d'être nouveau. De même que le mental est établi ici-bas sur la base d'une ignorance qui cherche la connaissance, et qui se dégage en connaissance. De même, le supramental doit s'établir ici-bas sur la base d'une connaissance qui devient sa propre lumière plus haute. Mais cela ne peut s'accomplir tant que l'être mental spiritualisé ne s'est pas pleinement élevé jusqu'au supramental pour faire descendre ses pouvoirs dans l'existence terrestre. Car un pont doit être jeté sur l'abîme qui sépare le mental du supramental. Les passages fermés doivent être ouverts et des routes créées pour montrer et descendre là où maintenant il n'est que vide et silence. Cela ne peut s'accomplir que par la triple transformation dont nous avons déjà parlé brièvement. Il faut d'abord que le changement psychique se produise. La conversion de notre nature actuelle tout entière en un instrument de l'âme. Ensuite, ou en même temps, doit avoir lieu le changement spirituel, la descente d'une lumière, d'une connaissance, d'une puissance, d'une force, d'une félicité, d'une pureté plus haute dans tout notre être, même dans les tréfonds de la vie et du corps, même dans l'obscurité de notre subconscience. Enfin, couronnant l'ensemble, doit survenir la transmutation spirituelle supramentale, l'ascension dans le supramental et la descente transformatrice de la conscience supramentale dans l'intégralité de notre être et de notre nature. Au commencement, l'âme dans la nature, l'entité psychique dont l'épanouissement est le premier pas vers le changement spirituel, est une partie complètement voilée de notre être. Et pourtant, c'est grâce à elle que nous existons et continuons d'exister en tant qu'êtres individuels dans la nature. Les autres parties qui composent notre nature ne sont pas seulement changeantes, mais périssables, tandis que l'entité psychique en nous persiste et reste toujours et fondamentalement la même. Elle contient toutes les possibilités essentielles de notre manifestation sur Terre, mais n'est pas constituée par elle. Elle n'est pas limitée par ce qu'elle manifeste, ni continue par les formes incomplètes de la manifestation, ni souillée par les imperfections et les impuretés, les défauts et les dépravations de l'être de surface. C'est une flamme toujours pure de la divinité cachée dans les choses, et rien de ce qui vient à elle, rien de ce qui entre dans notre expérience ne peut entacher sa pureté ou éteindre la flamme. La substance spirituelle est immaculée et lumineuse. Et parce qu'elle est parfaitement lumineuse, elle perçoit immédiatement, intimement, directement la vérité de l'être et la vérité de la nature. Elle est profondément consciente du vrai, du bien et du beau, parce que le vrai, le beau et le bien sont proches de sa nature. Ce sont des formes de cela qui est inhérent à sa propre substance. Elle perçoit aussi tout ce qui contredit ces choses, tout ce qui s'écarte de son caractère inné, le mensonge et le mal, ce qui est laid et frustre, mais elle ne devient pas ces choses. Elle n'est pas non plus touchée ni modifiée par tout ce qui contredit sa nature et affecte si puissamment ses instruments extérieurs, le mental, la vie et le corps. Car l'âme, l'être permanent en nous, crée et utilise le mental, la vie et le corps comme instrument. Et bien qu'elle se laisse envelopper et soit influencée par leurs contradictions, elle est différente et plus grande que ces éléments. Si dès le début, l'entité psychique avait été dévoilée à ses ministres et connue d'eux, au lieu d'être un souverain dissimulé dans une chambre secrète, l'évolution humaine aurait été un épanouissement rapide de l'âme et non ce développement difficile, mouvementé, défiguré que nous voyons à présent. Mais le voile est épais et nous ne connaissons pas la lumière cachée en nous. La lumière dans la crypte secrète du sanctuaire le plus profond du cœur. Des messages s'élèvent de l'âme, la psyché, vers la surface de notre être. Mais notre mental n'en discerne pas la source. Il les prend pour ses propres activités et parce que, avant même d'arriver à la surface, ils sont revêtus de substances mentales, ignorant leur autorité. Il les suit ou ne les suit pas, suivant sa tendance ou son humeur. Si le mental obéit à l'impulsion de l'ego vital, il y a peu de chances pour que l'âme puisse diriger la nature ou y manifester tant soit peu sa substance spirituelle secrète et son mouvement naturel. Ou si le mental est assez présomptueux pour agir selon sa propre petite lumière, il est attaché à son propre jugement, à sa volonté et à l'action de sa connaissance. L'âme restera également voilée et inactive, attendant une évolution plus avancée du mental. Car l'élément psychique au-delà, au-dedans, est là pour soutenir l'évolution spirituelle dont le premier mouvement doit être le développement successif du corps, de la vie et du mental. Ceux-ci doivent donc agir chacun selon sa propre nature ou tous ensemble dans une association mal assortie pour croire, faire les expériences et progresser. L'âme recueille l'essence de nos expériences mentales, vitales et corporelles et les assimile pour que notre existence puisse continuer d'évoluer dans la nature. Mais cette action est occulte. Elle ne s'impose pas en surface. Au cours des premières étapes matérielles et vitales de l'évolution de l'être, il n'y a en fait aucune conscience de l'âme. Il y a des activités psychiques, mais les instruments, les formes de ces activités sont vitales et physiques, ou mentales, quand le mental est actif. Car le mental lui-même ne reconnaît pas leur caractère profond. Tant qu'il est primitif ou que son développement reste encore par trop extérieur, nous pouvons facilement nous considérer comme des êtres physiques ou des êtres vitaux. Nous pouvons facilement nous considérer comme des êtres physiques ou des êtres vitaux ou des êtres mentaux qui se servent de la vie et du corps et ignorer totalement l'existence de l'âme. Car la seule idée définie que nous ayons de l'âme, c'est qu'elle survit à la mort de notre corps. Mais ce qu'elle est, nous ne le savons pas. Et même si nous sommes parfois conscients de sa présence, nous ne sommes pas normalement conscients de sa réalité distincte. Pas plus que nous nous sentons clairement son action directe dans notre nature. À mesure que se poursuit l'évolution, la nature fait lentement des essais pour manifester les plans, les parties occultes de notre être. Elle nous amène à regarder de plus en plus en nous-mêmes, où elle commence à projeter à la surface, depuis ses parties occultes, des messages et des formations plus clairement reconnaissables. L'âme en nous, le principe psychique, a déjà commencé à prendre secrètement forme. Elle crée et développe une personnalité psychique, un être psychique distinct pour la représenter. Cet être psychique reste encore derrière le voile, dans la partie subliminale de notre être, comme le mental vrai, le vital vrai, ou comme l'être physique vrai ou subtil. Mais il agit, lui aussi, sur les couches superficielles de la vie au moyen des influences et des indications qu'il fait remonter à la surface. Celles-ci viennent se joindre à l'agrégat superficiel qui est le produit de l'agglomération des influences et des surgissements intérieurs. C'est sur cette formation et superstructure visible que généralement nous sentons et croyons être nous-mêmes. Sur cette façade d'ignorance, nous percevons vaguement quelque chose que l'on peut appeler une âme, et qui est distinct du mental, de la vie et du corps, et cette âme, nous la sentons non seulement comme l'idée mentale ou le vague instinct que nous avons de nous-mêmes, mais comme une influence perceptible dans notre vie, notre caractère et notre action. Une certaine sensibilité pour tout ce qui est vrai, bon et beau, raffiné, pur et noble. Une réceptivité à ces choses, un besoin de ces choses, une pression sur le mental et la vie pour qu'ils les acceptent et les formulent dans nos pensées, nos sentiments, notre conduite, notre caractère. Tels sont les signes les plus habituellement reconnus, bien qu'ils ne soient pas les seuls. Les signes les plus généraux et les plus caractéristiques de l'influence de la psyché, de l'homme qui n'a pas cet élément en lui ou qui ne répond pas du tout à ses incitations, nous disons qu'il n'a pas d'âme. Car c'est cette influence que nous pouvons le plus aisément reconnaître comme la partie subtile et même divine en nous, et la plus puissante aussi pour orienter lentement notre nature vers quelque perfection. Voilà, alors aujourd'hui je termine une partie seulement du chapitre 25 de la vie divine de Sri Aurobindo, la triple transformation. Je remercie infiniment pour cette lecture Sri Aurobindo et Douce Mère. Ganga Lakshmi. Merci Stéphano.